Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, s'est entretenu hier ici à Kinshasa avec le Premier ministre et aussi avec quelques leaders de l'opposition. Le processus du départ de la MONUSCO de la RDC, la paix dans la partie est du pays et le processus électoral en République démocratique du Congo étaient au menu de ces rencontres. Et puis, une nouvelle attaque dans la nuit d'hier à ce jeudi à Kalembo, secteur de Rwenzori, dans le territoire de Beni. Bilan encore provisoire d'après la société civile fait état de 10 civils tués. Bilan non encore confirmé par l'armée qui dit attendre les services spécialisés qui sont sur terrain. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Bernard Okanda de la section protection de l'enfant de la MONUSCO à Beni. Il nous parlera de la facilitation de sa section au retrait des 17 enfants parmi les nouvelles recrues des FRDC. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. La mise en œuvre du plan de transition et son exécution concrète pour les retraits de la MONUSCO, c'est autour de cette question que le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des missions de maintien de la paix a échangé hier à Kinshasa avec le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Quelques ministres, en l'occurrence celui du plan, de l'intérieur, des droits humains et du genre, ont assisté à cette rencontre. Jean-Pierre Lacroix donne ici un éclairage sur la mise en œuvre du plan de transition retenu de commun accord avec le gouvernement congolais. Il s'exprime au micro de Billy Ivan Lutumba.
On parle souvent du départ programmé, d'un plan de départ. Il n'y a absolument pas de plan qui aurait prédéterminé le départ inéluctable de la MONUSCO dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Parce que ça, ce serait un calendrier artificiel détaché de l'évolution des conditions dans le pays. Ce que ce plan contient, c'est un certain nombre d'objectifs qui sont prioritaires et qui sont liés notamment à des progrès dans la situation sécuritaire, à des progrès dans le retour de l'État là où il n'est pas encore assez présent ou là où il est absent, et d'autres critères importants, je pense notamment aux droits humains, à la promotion de la place de la femme également. Bref, toute une série d'objectifs qui feraient que si ces objectifs étaient atteints, les conditions seraient réunies pour que la MONUSCO graduellement s'en aille et cède la place à une forme différente de soutien des Nations Unies, une forme plus classique de soutien de la part des partenaires internationaux. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui nous avons un cap. Nous voulons travailler ensemble sur ces objectifs qui sont vitaux au regard de l'objectif central qui est la promotion de la paix, de la stabilité, de l'ancrage démocratique en République démocratique du Congo. Nous avons un contexte qui est encourageant avec les autorités congolaises et notamment le gouvernement. Et donc maintenant, nos collègues de la MONUSCO se retroussent les manches pour faire avancer la réalisation de tous ces objectifs.
Toujours hier, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, s'est entretenu avec le leader de l'opposition congolaise. La sécurité dans l'est du pays et le processus électoral en RDC ont été parmi les questions abordées. C'était en présence de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Madame Bintou Keïta. Jean-Pierre Lacroix a reçu la délégation de l'AMUKA conduite par son leader, Martin Fayoulou, et celle du FCC dirigée par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Honoré Missenga Kalala.
C'est au quartier général de la MONUSCO, à Kinshasa, que les rencontres de Jean-Pierre Lacroix avec ses interlocuteurs congolais ont eu lieu. Martin Fayoulou a été le premier à être reçu avec sa délégation. Son interrogation au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est.
La MONUSCO fait des patrouilles avec les FRDC, mais on continue de tuer à Ituri, on continue de tuer à Beni, on continue de tuer donc dans tout le Nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe ?
Concernant la problématique du processus électoral, le leader de l'AMUKA a développé sa lecture des faits devant le numéro 2 des Nations Unies.
Nous avons parlé de la situation des élections à venir. Monsieur Félix Tshisekedi s'organise pour soit tricher, soit glisser.
Même son de cloche dans le camp du FCC avec Raymond Tshibanda.
Tout le monde sait que le processus est biaisé. On est en train d'installer une commission électorale nationale qui, de toute évidence, est conçue pour être au service d'un camp politique contre les autres. Cela est inacceptable. Donc il est important que le consensus qui est indispensable pour créer les conditions de bonnes élections puisse être recherché maintenant.
Avant de poursuivre son balai diplomatique, cette fois avec les officiels congolais à l'hôtel du gouvernement et à la présidence de la République, Jean-Pierre Lacroix s'est également entretenu, toujours au siège de la mission onusienne, avec une délégation paritaire hommes-femmes de la société civile.
Procès du double assassinat de Floribert Tchébé et Fidel Bazana, des nouvelles révélations faites hier mercredi à l'audience publique. Comparaissant à titre de renseignant, le colonel Daniel Mukalai a témoigné avoir été au courant de la planification depuis longtemps de l'assassinat de Tchébé et l'argent était déjà sorti pour cela. Les policiers Jacques Mugabo et Doudou Ilunga l'ont plutôt chargé et ont affirmé avoir enterré Bazana dans une parcelle du général Zeloa Katanga Djadidja à Mitendi. Reportage Jeff Ngoy.
Tout en rejetant sa participation à ce double crime, Daniel Mukalai traite le général John Numbi d'un malicieux qui a voulu lui faire porter le chapeau en contrepartie de l'argent qu'il aurait refusé. Crime d'État, réagit l'avocat des partis civils Peter Ngomo.
C'est une bonne chose parce que cela, vous savez, même aujourd'hui, on a entendu parler de général Jean-Claude Yav, qu'à lui, on aurait proposé 40 000 dollars. C'est vraiment une grande nouvelle qu'on n'a jamais appris cela avant pour tuer Chebeya. Mais il aurait décliné l'offre parce que disant que 40 000 dollars n'était pas suffisant pour lui. Et nous avons voulu bien qu'il revienne à une audience prochaine pour nous dire qui lui a proposé 40 000 dollars pour tuer Chebeya. Aujourd'hui, tout le monde sait, comme on a toujours soutenu que c'était un crime d'État. Aujourd'hui, vous voyez, tous ceux dont on parle là, ce ne sont pas des petits messieurs, ce sont des grandes personnalités du pays, hein, qui ont eu effectivement à plonger d'une manière ou d'une autre dans l'assassinat de ces deux défenseurs des droits de l'homme.
Accusé d'avoir entretenu un cimetière dans sa parcelle où serait enterré Bazana, le général Zeloa Djadidja ne reconnaît rien.
Ce ne sont pas ceux qui sont venus, qui ont creusé les trous. On a trouvé un trou déjà creusé. Qui a creusé ce trou-là? Si dans sa partie, il n'y avait personne. Il n'est pas que se défendre, c'est son droit.
Au Nord Kivu, une dizaine de civils ont été tués la nuit d'hier à ce jeudi à Kalembo, un village du secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni. La nouvelle société civile du Congo qui livre l'information dresse jusque-là un bilan provisoire des 18 tués et plusieurs autres portés disparus. L'armée ne confirme pas encore ce bilan et dit attendre les services spécialisés qui sont sur le terrain. Plus de détails avec André Kitenge depuis Beni.
C'est aux environs de 19h que les assaillants munis d'armes à feu ont fait irruption au village Kalembo, situé à quelques 6 km de la route Beni-Kassindi. Selon le coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo dans le secteur de Rwenzori, toutes les victimes ont été tuées par balles. Parmi elles figurent 4 femmes. Mumbere Meleki indique que les assaillants ont également incendié 4 maisons et emporté plusieurs autres habitants avant de piller leurs biens, notamment des bêtes de la basse-cour. Suite à cette situation, indique notre source, le village Kalembo se vide de sa population depuis ce matin. Certains habitants se dirigent vers Bulongo et Kassindi, tandis que d'autres prennent la direction de Beni. Contacté, le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord confirme les affrontements dans la soirée d'hier entre les FRDC et les assaillants, sans donner le bilan avancé par la société civile. Le capitaine Anthony Mwalushai dit attendre la confirmation des services spécialisés sur le terrain et les enquêtes qui pourront déterminer la vraie identité de l'ennemi ainsi que le bilan de cette attaque. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Non loin de là, en Ituri, des présumés miliciens Mai Mai ont attaqué la nuit dernière le village de Maou, c'est à 10 km de Makoumo, dans le groupement Bangolé en territoire de Mambasa. Selon l'Organisation de défense des droits humains, CRDH, ces miliciens ont incendié les campements de l'armée et blessé un policier. Les forces loyalistes sont intervenues pour limiter les dégâts. Marcel Kizabiamongou.
Une vingtaine d'hommes armés se sont introduits dans cette petite localité à Chanta et à Tira des coups de feu dans toutes les directions. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, CRDH, ces rebelles se sont ensuite dirigés vers les campements des FRDC où des policiers y sont également installés. Il y a eu échange de tirs avec les forces loyalistes. La même source indique que pendant ces combats, ces miliciens Mai Mai ont mis le feu à quelques maisons des fortunes des militaires. Un policier s'en est sorti avec deux blessures au ventre et son arme est récupérée par ses malfrats. Des sources sécuritaires indiquent que c'est grâce à l'intervention de l'armée que ces rebelles n'ont pas pu commettre davantage de dégâts. Toutefois, la CRDH redoute que cette région ne soit de nouveau insécurisée après une longue période d'accalmie observée dans cette entité. Mardi dernier, déjà, des présumés ADEF ont attaqué le village de Makoumo dans la même région où ils ont tué une personne, blessant deux autres par arme blanche. Des civils ont été également enlevé par ces rebelles, indique des sources sur place. À noter que l'armée n'a pas souhaité se prononcer sur cette situation. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, plus de 5000 personnes déplacées à Masisi Centre sont exposées aux maladies dans leur lieu de refuge où elles vivent dans des abris de fortune dans la précarité. L'alerte est donnée par des humanitaires. Une mission de plusieurs acteurs humanitaires conduite par OCHA a séjourné à Masisi durant la première semaine d'octobre. Cette mission consistait à évaluer les conditions humanitaires dans lesquelles vivent ces récents déplacés estimés à près de 5600 personnes. Ces dernières ont fui l'insécurité dans leur village, rapporte OCHA dans sa note d'information humanitaire de mardi dernier. Denise Loukesso.
Dans ses rapports, OCHA rapporte que ces déplacés qui vivaient dans des centres collectifs à Masisi Centre se sont délocalisés vers un nouveau site appelé Kisoko et ils sont dépourvus de tout, les exposant ainsi aux maladies diverses. En plus des questions d'accessibilité physique et de protection, ces sites présentent de nouveaux besoins en termes d'approvisionnement en eau et hygiène, accès aux soins et services de santé, accès à la nourriture ainsi qu'aux infrastructures scolaires, alerte OCHA. Pour l'heure, ces déplacés n'ont reçu aucune assistance humanitaire. La mission plaide auprès des autorités pour que ces personnes rejoignent des familles d'accueil. La société civile territoriale de Masisi craint l'apparition des maladies diarrhéiques au regard des conditions sanitaires et humanitaires précaires dans lesquelles vivent ces déplacés. À ce jour, plus de 40 000 personnes, dont plus de 60% hébergées dans des familles d'accueil, sont déplacées à Masisi Centre en raison de l'insécurité. Ces déplacés ont fui les opérations militaires que mène l'armée contre les groupes armés dans le Masisi. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Toujours dans la province du Nord Kivu, les combattants de certaines factions du groupe armé collectif des mouvements pour le changement CMC Nyantura, encore réfractaires au processus de reddition volontaire, tracassent la population dans les territoires de Rutshuru. L'ONG locale nommée Badilika tire la sonnette d'alarme et exige que les opérations militaires de grande envergure soient menées dans cette zone où quelques villages sont déjà vidés de leurs habitants. Le point avec Gabriel Wamenga.
C'est depuis le mois dernier que les combattants de ces groupes armés ont accru leur activisme dans plusieurs villages et localités des groupements de Busanza, Bukoma ainsi que dans les groupements de Binza. Ces rebelles imposent des taxes illégales de 5 dollars américains aux agriculteurs pour accéder à leurs espaces champêtres. L'ONG Badilika affirme aussi que les cas de pillage des produits agricoles et des bétails sont commis par ces combattants dans les villages de Butimbo et Kaseke. Les sources de l'ONG Badilika précise que les combattants réfractaires au processus du désarmement du général autoproclamé Bigabo qui s'est rendu dernièrement au FRDC à Kihala sont actuellement en errance. Les uns se seraient joints à l'aile dissidente du même mouvement dirigé par un certain général autoproclamé Janvier Nyonzima. L'organisation plaide pour les opérations militaires de grande envergure dans cette partie du territoire de Rutshuru. Les porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 promet de se prononcer au sujet de cette problématique sécuritaire dans un futur proche. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Autre nouvelle, mesdames et messieurs, enfin, la société d'exploitation d'or, TSM-SARL, qui se trouve dans les territoires de Kabambaré, en province du Maniema, a signé un cahier de charges avec la communauté des Babouyou dans le cadre de la construction de certaines infrastructures de base en faveur des populations. Cette société exploite en effet des minerais dans la zone depuis plusieurs années. L'absence de cahier de charges a été à la base de plusieurs conflits dans ce secteur. Florence Kizalunga.
Dans ce cahier des charges signé devant le gouverneur de province ad intérim, il est mentionné par exemple la construction des 5 écoles dans différents villages, la construction des infrastructures de santé, la construction de 2 marchés, la construction du bureau de secteur, l'achat des 10 motos tout terrain pour le chef coutumier, l'ouverture de la route Kako vers Luama long de 15 km, ainsi que l'adduction d'eau dans 3 villages de groupement de Benyabemba où elle exploite. Afan Idrissa, gouverneur ad intérim, appelle la société au respect de ses engagements.
La signature d'un cahier des charges est une chose. Le respect des obligations réciproques qu'il contient en est une autre. C'est ici l'occasion pour nous d'interpeller les deux parties au respect strict de leurs engagements respectifs.
Sentiment de joie de la part des notables de cette communauté qui attend de voir la concrétisation de ses promesses.
Ce que j'attends à TFM, ce n'est pas seulement d'accepter de signer le cahier de charges, il faut que ce cahier de charges soit réalisé.
Nous venons de prendre un bon départ avec la société TFM.
D'un bon cœur, la société TFM SARL promet de respecter ses cahiers de charges. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Et puis, le gouvernement n'arrive pas à créer une classe moyenne en RDC parce que l'économie est entre les mains des étrangers en complicité avec les autorités congolaises et au mépris de la loi. C'est ce qui ressort de la plénière d'hier mercredi qui a examiné la question orale avec débat adressé au ministre Eustache Mouanzi sur le dossier de la sous-traitance dans le secteur privé. Pour les députés, la loi de 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé est régulièrement violée par les investisseurs étrangers sous la protection des autorités congolaises. Michel Kifindangoy.
Dans son exposé des motifs, l'auteur de la question orale avec débat dénonce l'organisation de la sous-traitance par les étrangers en violation des dispositions pertinentes de la loi et ce, en dépit de l'existence de l'autorité de régulation de la sous-traitance. Pour plusieurs députés, les entreprises sous-traitantes étrangères sont à la base de la pauvreté criante des Congolais. Hubert Furuguta.
La quasi-totalité des employés sous le régime de sous-traitance n'ont aucun droit ou avantage. Je parle de l'assistance maladie, du paiement des heures supplémentaires, les patrons étrangers qui violent les lois congolaises contre les agents et les citoyens et la main-d'œuvre congolaise. C'est la police, c'est les services de renseignement, c'est l'armée qui vient les protéger.
Les députés recommandent au gouvernement de tout mettre en œuvre pour empêcher les étrangers à appauvrir le peuple congolais. Bernard Mbaki Mansanga.
S'il faut recouvrer des taxes à un expatrié, vous donnez les injonctions là-bas et l'action à l'encontre de l'expatrié est suspendue. Quelle est la relation que vous avez par rapport aux expatriés? C'est les Chinois que vous allez trouver sur le terrain en train de vendre les aiguilles. C'est le gouvernement qui les protège. Chassez-nous ces gens-là.
Le ministre Eustache Mahanzi sollicite donc 48 heures pour rencontrer les préoccupations des députés.
Actualité internationale.
Le principal parti d'opposition au Zimbabwe a dénoncé mercredi une nouvelle attaque contre son leader, Nelson Chamisa, sorti indemne après avoir été visé la veille par des tirs alors qu'il se trouvait dans sa voiture après un meeting politique.
L'invité.
La MONUSCO vient de faciliter le retrait des 17 enfants parmi les nouvelles recrues de FRDC regroupées au centre de regroupement camp général Chico Chitambwe à Beni au Nord Kivu. Pour en parler, nous recevons Bernard Okanda de la section protection de l'enfant de la MONUSCO. Il s'entretient avec Martial Papimukeba.
Bernard Okanda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez de terminer avec le processus de vérification de l'âge des nouvelles recrues au sein des FRDC dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Combien d'enfants ont-ils été retirés du centre de regroupement des Mambango?
À cette deuxième phase que nous avons effectuée aujourd'hui, nous venons de retirer 17 enfants qui ont été certifiés. Et leur âge varie entre 15, 16 et 17 ans. Et le nombre total que nous avons trouvé a été multiplié par deux par rapport à la première phase où nous avons trouvé 129, mais aujourd'hui nous avons trouvé 250 nouvelles recrues. Et sur le 250, nous avions pu retirer 17 enfants.
Quelle a été la procédure du retrait de ces enfants parmi les nouvelles recrues des FRDC?
Dans un premier temps, lorsque nous arrivons, nous procédons d'abord à une sensibilisation. Nous présentons le mandat de la MONUSCO et par rapport à l'accompagnement des FRDC, les critères aussi de recrutement, tout en insistant sur les critères liés à l'âge et le bien fondé de se présenter dans l'armée lorsqu'on a atteint 18 ans et les conséquences négatives d'entrer dans l'armée lorsqu'on a moins de 18 ans, pour faire comprendre aux candidats que quand on n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, donc on ne peut pas être éligible au recrutement.
Cela était-il fait en collaboration avec les FRDC?
Justement, nous avons fait avec les FRDC, la cellule de recrutement officielle des FRDC, particulièrement le colonel Ndakala, qui est en charge du recrutement dans le Grand Nord. Il existe un mécanisme où nous travaillons d'abord en amont, avant même le lancement de la campagne. Et nous nous concertons pour arrêter une méthodologie de travail. Et le FRDC se lance dans la campagne. Et lorsque les candidats viennent, ils nous appellent pour aller procéder à cette vérification que nous appelons évaluation de l'âge, pour éviter qu'il y ait glissement pendant le recrutement. Parce que, comme vous le savez, l'armée républicaine ne peut pas recruter les enfants à son sein.
Comment vous certifiez avec exactitude que les candidats sont des enfants?
Nous avons une méthodologie de travail. Nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons avec nos partenaires qui sont des ONG locales. Alors, nous procédons de la manière suivante. Lorsque l'on nous présente les groupes de personnes, nous procédons par le tri préliminaire basé sur l'aspect physiologique. Et lorsque nous voyons quelqu'un physiquement, nous pouvons lui prêter les intentions d'un mineur. Et c'est ainsi que nous pouvons les retirer. Ça, c'est les tri préliminaires. Et dans ces tri préliminaires, aujourd'hui, nous avons retiré une trentaine. Et après les avoir retirés, maintenant, on procède à la deuxième étape qui est l'entretien. Et dans cet entretien-là, nous avons plusieurs éléments de repère. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas leur âge. Vous pouvez demander à quelqu'un, une grande personne, il peut vous dire, non, j'ai 17 ans. Nous, par nos méthodes, nos techniques, nous procédons par un entretien en rappelant certains souvenirs, en nous basant sur la généalogie, en nous basant sur certains éléments historiques de leur entourage, de leur environnement, et nous arrivons au moins à déceler à peu près l'âge de la personne.
Ces 17 enfants retirés des nouvelles récrits des FRDC, sont-ils venus de quelle zone exactement?
Ces 17 enfants sont venus particulièrement de la zone de Kainama et de Kamango.
Dans les territoires de Béni.
Dans les territoires de Béni. Nous particulièrement, nous avons compris leur situation parce que ce sont les deux zones qui font objet de beaucoup de pressions des groupes armés, particulièrement les EDF. Et la plupart d'entre eux, lorsqu'on causait avec eux, ce sont certains, ils ont perdu leurs parents par le fait de ces éléments rebelles. Et les autres ont perdu même des familles. Alors, c'était ça la motivation. Ils se disent, finalement, une occasion nous a été donnée pour aller servir notre patrie tout en défendant notre terroir.
Que vont-ils devenir maintenant?
Maintenant là, ils vont être momentanément encadrés par notre partenaire une ONG locale qui a le financement de l'UNICEF bien sûr. Pendant un temps, après cela, ils vont retourner dans leur famille pour aller continuer avec leurs études parce que nous leur avons dit, lorsqu'ils pourront atteindre l'âge adulte, ils auront encore la possibilité de revenir si seulement telle est leur vocation.
Bernard Okanda, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.